Commençons par la prière. Seigneur, ta parole est pleine de vie. Ta parole est une nourriture spirituelle. Ta parole nous nourrit. Et même si des fois nous ne la comprenons pas par notre logique, nous savons par la foi, du moment que nous la lisons, elle nous parle, elle nourrit notre être intérieur. Si dans ta volonté tu veux que cette parole vienne à notre niveau intellectuel, nous le comprenions, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant mieux aussi, nous te remercions parce que nous savons que tu nous as parlé. Cette parole porte des fruits dans notre vie de tous les jours. Je te prie, comme d'habitude, d'écarter tout ce qui vient de l'homme et de parler à chacun de nous, à commencer par l'orateur, que ces paroles nous interpellent, m'interpellent, et qu'on ait un seul objectif, c'est celui de te laisser régner dans notre vie, dans ton Église, que tu sois la tête, que tout vienne de toi, par toi et pour toi, que nous puissions vivre cette sanctification d'une manière continuelle, et que nous ayons cette vision glorieuse, celle de faire partie de l'Église qui ira à ta rencontre quand tu reviendras. Une Église sans tache, je t'en supplie, Seigneur mon Dieu. Que ne soyons pas une entrave à cette réalité, ce cheminement, mais que tu fasses tout, même ce qui nous déplaît, pour nous préparer à cette rencontre éternelle. Amen.
Amen. Amen.
Avant de commencer le message, je tiens à partager avec vous un sujet de prière. Ce matin, nous avons envoyé des vœux à des amis en Haute-Saône, quand nous habitions en Haute-Saône, jusqu'en 2015. Et nous avons un des voisins, nous étions très proches d'eux, très proches, ils connaissent les enfants, ils nous aiment, ils ont même les photos des enfants. Nous étions très proches d'eux, ce ne sont pas des chrétiens. Mais peu importe, nous ne sommes pas là en train de sélectionner. Nous aimons même ceux qui ne sont pas chrétiens. Sinon, ce n'est pas la peine d'être chrétien soi-même. Et ils ont reçu cette histoire, notre histoire familiale, des photos. Et ce matin, il m'a appelé notre voisin, Daniel, qui doit avoir aujourd'hui 77-78 ans. Et il était en pleurs. D'abord, il nous a remercié pour le. On pense à lui. Mais il était en pleurs. Il est dans une solitude terrible. En 2017, il a perdu son épouse. J'ai assisté aux obsèques. Son meilleur ami, de ceux qui viennent le voir une fois par semaine, apparemment, donc, est malade. Et 2021, alors que nous lui envoyons nos vœux, meilleure année, meilleure 2021, il me dit, mais l'année commence mal. Il a trois filles. Une fille qui est en Bretagne mariée avec un Fougerolais de la Haute-Saône. Il vient d'apprendre qu'il a un cancer de la prostate et apparemment ça touche les os. Et il me dit, comme ça ne suffisait pas, ma fille, la plus jeune, qui est en Alsace, elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer du sein, tumeur. Et comme ça ne suffisait pas, la troisième fille qui est à proximité, son mari vient de la quitter pour aller avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, nous nous plaignons des fois. Des fois, nous pouvons nous plaindre. On n'est pas content. On se révolte. Et je ne savais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas doué du tout dans telle situation. Alors j'ai dit qu'on pensait à lui. Et comme d'habitude, on lui a déjà proposé de venir passer des jours chez nous. Donc voilà, il est un peu gêné, mais il faut absolument qu'on le fasse un jour. Et en raccrochant, je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai prié. Je ne savais pas quoi dire. Et là, une pensée m'est venue. Nous avons des amis qui sont à proximité de Fontaine. Des amis chrétiens. Dont un, il devait venir dans notre église pour parler justement de l'écologie dans la Bible. Et là, je l'ai rappelé, je lui ai dit, Daniel, est-ce que ça te dérange si je parle à un frère, c'est qu'ils sont très proches de nous, Jean-Daniel et Christine, qui viennent te rendre visite. Mais je te préviens, c'est des chrétiens, comme nous. Vous le savez. Mais je sais que vous êtes chrétiens. Est-ce que ça te dérange qu'ils viennent te voir? Mais s'ils viennent te voir, ils vont te parler de la Bible. Ils vont t'inviter à l'église, des repas, etc. Ah si, j'accepte. Et c'était une très grande joie dans mon cœur quand il a dit ça. Et bien cet après-midi, je vais appeler ce frère, ils vont aller leur visiter, qu'ils puissent l'intégrer dans leur communauté chrétienne et qu'ils puissent vivre cette chaleur chrétienne. Vous voyez, les chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière dans le monde et la situation. Maintenant, nous sommes obligés, et c'est un sujet que je vous demande vraiment de prier pour que les choses... Parce que là, le diable va agir. Vous voyez, il ne va pas le laisser tranquille. Il va tout faire pour qu'il n'y ait rien. Mais que cette relation puisse s'accomplir et que ce notre voisin que nous aimons beaucoup puisse trouver cette chaleur en la présence de notre Seigneur, en ouvrant son cœur au Seigneur. C'est ce qui est le plus important. Je tenais vraiment à partager avec vous cette situation qui s'est passée ce matin. Le message d'aujourd'hui, bon, il n'y a rien de nouveau, encore une fois, on va se répéter. Donc à chaque fois, je dis,
tout est nouveau.
Oui, on a l'impression qu'on se répète. C'est le même message, mais c'est ça être chrétien. La centralité de Christ. On ne peut avoir pas à gauche, à droite. Christ au centre. Je peux vous parler de ce que vous voulez, mais c'est Christ. En dehors de Christ, il n'y a rien de bon. Ah ben justement, c'est le titre. Rien de bon n'habite en moi. Rien de bon n'habite en moi. Et notre message sera basé sur un passage de la Bible, bien qu'il y en a d'autres, il y en a beaucoup, hein, d'autres. Mais celui-là est dans Romains chapitre 7, verset 18. Romains 7, 18. C'est l'apôtre Paul qui parle. Raison pour nous, si on parle. Hein. Vous voyez ? C'est l'apôtre Paul qui parle, le grand apôtre Paul. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Rien de bon n'habite en moi. Avant de devenir chrétienne, une personne pense être innocemment bonne. Une personne peut penser qu'elle est bonne, qu'elle est morale. Elle se dit qu'elle n'est pas si mauvaise que les autres. On pourrait nous le dire aussi, nous. Qu'est-ce que j'ai de mal que les autres ? Regardez ce qui se passe dans moi. Je ne vole pas, je ne braque pas, je ne tue pas. Je ne suis pas si mauvais que ça. Mais ceux qui connaissent Dieu savent que pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, on doit d'abord reconnaître que notre justice est comme des habits sales et souillés. Notre justice humaine est sale devant la justice divine. Que tous sont déchus de la grâce. Que personne n'est juste aux yeux de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains chapitre 3, verset 10. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, versets 22 et 23. Nous pouvons protester en disant que nous ne sommes pas si mauvais que ça. Nous sommes de bons citoyens, bien éduqués. Et en plus, nous ne sommes même pas syndiqués. Oui. Mais Dieu dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. D'autres traductions disent « dès sa naissance ». Genèse, chapitre 8, verset 21. Pour être sauvée, une personne doit cesser de penser qu'elle est juste par elle-même et accepter le verdict de Dieu. Peu importe si elle pense être bien par rapport au reste du monde. Elle est une pécheresse qui a besoin d'un sauveur. Elle ne peut naître de nouveau à moins de reconnaître et d'accepter ce que le Seigneur dit à son sujet et sur sa condition. Nous qui avons reçu le Seigneur comme notre sauveur, nous sommes parvenus au moins une fois dans notre vie à la connaissance de nous-mêmes. Il est arrivé un jour, ou plusieurs jours, de désespérer de nous-mêmes. Nous avons essayé de nous sauver nous-mêmes, mais nous avons fini par lâcher prise. Nous avons confessé alors publiquement ou secrètement, dans notre intimité avec Dieu, nos péchés et reconnu notre besoin d'un sauveur. À ce moment-là, Christ nous a acceptés comme ses enfants et ses disciples. La confession de notre péché ou de nos péchés ne nous ont pas empêchés d'entrer dans le royaume divin. Au contraire, cela nous a ouvert la porte pour y entrer. Avec la nouvelle naissance, ou appeler sa conversion, bien que le mot conversion n'existe pas dans la Bible, la nouvelle naissance, nous sommes devenus des disciples de Christ. Nous sommes passés par la porte étroite qui marque le début de notre marche avec le Seigneur. Nous connaissons, au début de notre conversion, nous connaissons peu le Seigneur encore, et c'est normal. Et nous en connaissons peu aussi sur nous-mêmes, et c'est normal. Et c'est ainsi que le Seigneur commence à nous conduire le long du chemin étroit en cherchant à nous montrer deux choses. Quelles sont ces deux choses ? Qui nous sommes et qui est lui, le Christ ? Deux choses. Dieu nous révèle à la fois qui est le Christ et en même temps qui nous sommes. Tout en nous montrant notre insuffisance, il nous révèle la suffisance de Christ. Ça va de pair. Je ne peux réaliser la richesse de Christ que parce que je découvre et j'expérimente ma pauvreté. Plus Dieu nous montre qui nous sommes, plus nous désespérons tout naturellement de nous-mêmes et regardons à Christ. C'est la règle de tout chrétien. Sinon, nous finirons par imaginer que nous sommes un peu meilleurs que nous le sommes vraiment. Nous pouvons même nous comparer aux autres, pas spécialement au monde, parce qu'on est meilleur. Vous voyez, déjà dire cela, je suis dans un orgueil terrible. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes comme les autres, mais graciés. Nous prendrons alors la force de la chair pour la force spirituelle. C'est le cas de l'église de Corinthe. Voilà, sujet de Corinthe, les Corinthiens. C'est l'exemple de l'église de Corinthe, dont le récit est un enseignement pour nous aujourd'hui. À cette église, l'apôtre Paul ne peut qu'enseigner des bases de la vie chrétienne, qui s'adressent à des bébés spirituels, au lieu à des personnes matures spirituellement. L'apôtre Paul leur dit, dans Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas, même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Un état d'enfantillage spirituel délabré, où règne la jalousie, la médisance, les querelles, les courants et les dénominations. Les dénominations est un signe d'enfantillage chrétien dans notre monde. Il ne faut pas le cacher, il faut le reconnaître. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 3 et 4, nous lisons, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Et en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel ? Et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre dit « Moi, je suis d'Apollos », quand quelqu'un dit « Je suis de la Pentecôtiste, moi, Baptiste, moi, d'Arc », mais ce n'est pas écrit, mais c'est la même chose. Vous n'êtes pas des hommes charnels ? Posons-nous la question. Et de rappeler solennellement plus loin, l'apôtre Paul, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. L'état de croyant charnel fait de nous des chrétiens qui confesseront de notre bouche que nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Mais, dans la pratique, nous essayons de faire par nous-mêmes beaucoup d'œuvres. Mais Dieu est bon, car il sait avec le temps toutes ces choses n'aboutiront à rien. Il le sait. Il est bon avec nous. Nous échouerons des centaines et des milliers de fois jusqu'à ce que nous ayons appris la leçon. Il est patient avec nous. Tout ce qui vient du moi non crucifié, c'est-à-dire de ma chair, qui cherche son autosatisfaction, n'est pas bon. Avant qu'il n'ait vu le Seigneur, Paul, le grand Paul, avait confiance en lui-même et était même dangereux, puisqu'il persécutait les chrétiens. Il ne se connaissait pas réellement. Il vivait dans une séduction religieuse qui lui masque sa réalité déchue. Il pensait quelque chose de bon en lui pour servir Dieu. J'ai bien peur que beaucoup de personnes de nos jours, si ce n'est des frères et sœurs, pensent que Jésus est seulement venu pour leur donner un coup de main et les aider à se sentir mieux. Les librairies, aujourd'hui, foisonnent de livres chrétiens populaires, nous expliquant comment avoir une meilleure vie, comment prospérer, comment être un gagnant, comment faire pour que cela aille mieux, comment penser positivement, comment avoir des pensées qui nous encouragent, comment faire appel à la psychanalyse et réaliser une cure d'âme, comment créer et maintenir une joie permanente, jusqu'à susciter des courants qui n'ont rien de chrétien, comme le mouvement de la prospérité, le mouvement de Toronto, que j'ai connu par le biais d'un pasteur à Belfort, où j'ai assisté à ces manifestations spirituelles qui m'ont fait pleurer que rire, ou le Nouvel Âge, le New Age. On doit s'aimer, nous dit-on, au point de s'autocongratuler, car la Bible, on ne se base sur la Bible, car la Bible, elle dit « Aimez les autres comme vous-même, donc je dois m'aimer ». On se focalise sur la façon de rendre la vie ici sur terre plus agréable, rendre les croyants plus indépendants et leur donner plus confiance en eux. Cela n'est peut-être pas le but avoué, mais c'est le résultat inévitable. Et si quelques versets peuvent être utilisés dans ce processus, c'est d'autant mieux. Ce serait une erreur de faire passer la sainteté divine, la sainteté pour quelque chose de misérable et qui serait une suite de corvées. Ce serait même une plus grande erreur, encore, de dire à quelqu'un qu'il est merveilleux avant qu'il n'ait d'abord désespéré de lui-même et qu'il ait appris la leçon que Paul a apprise. Je sais qu'en moi, rien de bon n'habite. Je sais qu'en moi n'habite rien de bon. Nous n'avons pas besoin d'estime de soi. Nous avons besoin d'estime de Christ. Et c'est Christ qui doit se glorifier en nous. Dieu n'a pas besoin de nous, c'est la religion, ça. Et nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Christ se plaît en nous. Plus nous voyons Christ, moins nous nous confions en nous-mêmes. C'est pour cela qu'une fois cette leçon apprise, Paul a écrit « Nous ne mettons point notre confiance dans la chair. » Philippiens, chapitre 3, verset 3. Paul fait ensuite la liste de ce qui semble important pour la religion, en termes de statut, de rang social, d'éducation, de bonnes œuvres, tout ce qui tend à faire que quelqu'un se sente sûr de lui et juste devant les autres. Dans une grande exclamation, l'apôtre Paul dit « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Philippiens, chapitre 3, verset 8. L'apôtre Paul met simplement de côté ce que d'autres de nos jours passent toute leur vie à essayer d'obtenir. Voici un homme qui connaît la toute suffisance de Dieu ainsi que sa propre insuffisance. Nous avons un bon exemple dans la Bible. Et cet exemple, c'est Joseph. Étant jeune, Joseph a réalisé que Dieu l'avait choisi dans un but précis. Dieu a confirmé cet appel particulier en donnant à Joseph un rêve prophétique concernant son avenir. Je vous invite à lire Genèse chapitre 37, versets 1 et 11. Joseph, dans sa fougue, dans sa jeunesse, il apprend, il est jeune, s'empressa de partager ses rêves avec son père et ses frères. C'était fougueux. Le résultat en a été que ses frères sont devenus jaloux de lui et ont failli le tuer. Joseph a été vendu comme un esclave et a passé de nombreuses années en prison. Vous connaissez l'histoire. Il semblait que ses rêves n'allaient jamais se réaliser. Pourtant, Dieu utilisa toutes ces circonstances pour enseigner à Joseph à ne pas avoir confiance dans la chair. Après plusieurs années de préparation divine, Joseph a été conduit au palais pour interpréter le rêve du Pharaon. C'était pour Joseph, humainement parlant, c'était pour Joseph l'opportunité de se sortir tout seul de cette terrible situation. Enfin, maintenant je vais m'en sortir. Quelqu'un avait enfin reconnu qu'il avait un don et pouvait le récompenser généreusement pour cela. Mais le jeune Joseph, rempli de confiance en lui-même, avait disparu. En prison, il n'y a plus de confiance en soi. On dépend des autres. Ma liberté dépend des autres. Je ne peux rien faire. Il a expérimenté cela. C'est à ce moment-là que Dieu est venu le chercher pour se servir de lui. Il avait fini par apprendre cette leçon de base, pas moi, mais Christ. Peux-tu interpréter mon rêve ? Demande le Pharaon. Ce n'est pas moi, mais Dieu qui te donnera une réponse, a répondu Joseph. Ce n'est plus Joseph qui parle. Ce n'est pas moi qui va te répondre, c'est Dieu qui va te répondre. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Genèse 41, verset 16. Et il l'a fait, car on pouvait maintenant faire confiance à un Joseph vidé de lui-même. Joseph a même manifesté une sagesse et une maturité plus grandes encore dans sa façon d'agir avec ses frères, en démontrant une grâce et un amour surnaturel envers ceux qui lui avaient voulu du mal. Je ne peux pardonner aux autres que si j'expérimente le pardon de Dieu. Toutes nos circonstances, tests, difficultés, sont là pour nous amener à l'endroit où nous pouvons dire avec Joseph, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi. Dieu permet que bien des choses se mettent en travers de notre chemin, alors même que nous aurions pu les éviter si nous n'étions pas si sûrs de nous et si confiants en nous-mêmes. Dieu a besoin de travailler longtemps et profondément en nous pour parvenir à ses fins, et il est patient. Mais qu'il est merveilleux. Le jour où, ayant finalement appris la leçon, nous courbons la tête et nous lui soumettons toutes choses. Ensuite, il peut vraiment nous utiliser. Mais même s'il nous utilise, il ne nous utilise pas, ce n'est pas grave. Nous sommes néanmoins à lui, lui étant soumis. Nous sommes satisfaits, quel que soit l'endroit où il nous a placés. Que nous soyons dans la richesse ou dans la disette, que nous soyons dans la joie ou dans la tristesse, que nous soyons dans une prison ou sur un trône, gloire à Dieu, alléluia. Pierre est un autre exemple, très intéressant du processus par lequel chaque vrai disciple finit par apprendre qu'il n'y a rien de bon dans sa chair. Pierre a commencé sa marche avec Jésus, comme vous le savez, de la même façon que nous. En reconnaissant son péché et en disant dans Luc chapitre 5, verset 8, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » C'est comme ça que ça a commencé la relation entre Pierre et Jésus. Certains mettent en avant leur propre justice et pensent qu'ils font une immense faveur à Dieu en devenant chrétiens. Mais Pierre a fait un début extraordinaire en se reconnaissant clairement lui-même comme un pécheur. Et ainsi le Seigneur a pu le prendre tel qu'il était et commencer à l'accompagner, à l'enseigner, à le former, à l'éduquer et à se servir de lui. Cependant, après avoir fait des progrès, comme vous le savez, Pierre est tombé dans ses travers. Comme nous. Vous voyez? Pareil. Il avait suivi Jésus pendant 3 ans et se réjouissait de sa communion avec lui. Il avait vu faire des miracles. Il a même fait en a fait au nom du Seigneur. Selon les apparences extérieures, il n'était pas un homme pécheur, mais il était devenu un homme spirituel. Dans le passé, Pierre se considérait lui-même indigne d'être la présence de Jésus. Mais rapidement, on a retrouvé cet homme pécheur, débattant avec les autres disciples pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Je vous laisse lire Luc chapitre 22, 24. Cela nous montre qu'il nous faut atteindre une mort plus profonde et que plus nous devenons spirituels, plus nous sommes facilement trompés par notre propre spiritualité. C'est très subtil. Je suis très humble dans ma spiritualité. Attention, des fois l'orgueil déguisé. Meilleur que les autres, jusqu'au point de critiquer les autres, les frères et sœurs. Je suis meilleur que les autres, même si je ne le prononce pas. Si le dentiste nous propose d'enlever une dent saine, nous allons sûrement refuser. En tout cas, moi, je refuse. Mais si cette dent est pourrie et douloureuse, il ne faudra pas longtemps avant que nous allions le voir pour qu'il nous l'enlève ou la soigne. Plus nous souffrons, plus vite nous cherchons un soulagement. Attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la souffrance. Je ne parle pas de la souffrance recherchée, mais la souffrance subie que nous recherchons pas. De même, quand le Seigneur parle pour la première fois de porter la croix, nous sommes tentés de répondre comme Pierre, « Pas cela, Seigneur ! Cela ne t'arrivera jamais !» Il l'a fait. Nous aurons fait peut-être la même chose. Nous ne voyons pas la nécessité de la mort, parce que le moi ne nous a pas encore fait souffrir. Quand notre moi nous fait souffrir, nous cherchons le médecin. Si nous ne cherchons pas le médecin, notre chair ne fait pas assez souffrir. Quand nous en avons assez de souffrir à cause de notre chair, alors nous sommes heureux de demander à Dieu de nous diminuer pour qu'il puisse grandir. Avant cela, aucun enseignement, argument ou doctrine ne sera suffisant pour convaincre une personne. L'enseignement par la pratique, mes frères et sœurs. Pierre a persisté jusqu'à l'ultime fin. Il était un cas difficile, mais le Seigneur était patient. Quand Jésus a dit que tout le monde allait l'abandonner, Pierre a protesté et affirmé que même si les autres disciples le quittaient, il n'abandonnerait jamais. Certainement, on dirait la même chose aujourd'hui. Vu de l'extérieur, il a agi et parlé comme un croyant, comme un disciple engagé. Mais quand la tentation est survenue, mes frères et sœurs, il n'a même pas pu résister aussi longtemps, même pas résister à rester éveillé pour prier. Peut-être ne pensait-il pas que la prière était nécessaire. Il suffit d'être à côté de Jésus. Il se sentait assez fort pour résister sans prier. Ensuite, quand Jésus a accepté de se faire arrêter, Pierre a essayé de le défendre avec une épée. Nous le faisons peut-être nous avec nos paroles, discussions, convictions, débats, arguments. Peut-être que ce n'est pas une épée, mais c'est une épée de la langue. Tous ces exemples démontrent combien était petite la connaissance que Pierre avait de lui-même. Ce n'est qu'après avoir renié 3 fois le Seigneur que Pierre a fini par apprendre la même leçon que Paul. Je sais qu'en moi n'habite rien de bon. Après avoir renié le Seigneur, il est parti. Il a pleuré amèrement. Il avait fini par être brisé. On y est. Il se haïssait lui-même pour ce qu'il avait fait. Il avait enfin vu quelque chose de lui-même. Et il en avait honte. Assez étrangement, plus Pierre pensait être indigne, plus le Seigneur a essayé de le restaurer et de l'encourager. L'œuvre de la croix. Quand Pierre était fort et arrogant, le Seigneur l'a affaibli par une réprimande. Quand Pierre était suffisamment faible et humble, le Seigneur l'a fortifié par des encouragements. Quel Seigneur glorieux nous avons. Nos échecs, il faut le savoir, souvent dans la Bible, nos échecs servent au dessein de Dieu. Jésus n'a pas été surpris ou déçu lorsque Pierre a chuté. De la même manière, il n'est pas surpris ou déçu quand nous échouons. Il est plutôt en train d'attendre que nous échouions pour pouvoir être réduits à lui. Souvent, il cherche les succès, mais souvent, le Seigneur nous amène aux échecs. Quelle école! Il ne se fait pas d'illusions sur nous et il nous connaît de fond en comble. Il sait que même si notre esprit a la volonté, notre chair est faible. Le problème n'est pas notre faiblesse. Le problème est notre manque de volonté de reconnaître notre faiblesse devant lui. Paul n'avait pas confiance dans la chair. Il pouvait donc dire dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 « Je me réjouis dans mes faiblesses pour que la puissance de Christ puisse demeurer sur moi. » Mais je tiens à vous annoncer une grande nouvelle. Cette faiblesse du moi est la vraie clé pour vivre la vie chrétienne. Désespérer de nous-mêmes est la clé qui ouvre la porte à toute la puissance, la victoire et la fertilité en Christ que nous recherchons. Je vous invite, à travers ce que je viens de lire les béatitudes dans Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, c'est ceux-là que seront consolés. Mais les pauvres d'abord, réalisons que nous sommes pauvres en esprit. Je sais qu'en moi n'habite rien de bon. Je le sais, dit Paul, rien de bon. Je sais qu'en moi, dans ma chair, dans mon moi, il n'y a rien de bon. Et en dehors de lui, en dehors de Christ, je ne suis rien. Christ est tout. Christ est en moi et ma seule espérance. Dans une partie de moi, il y a ma chair. Dans ma chair, n'habite rien de bon. Mais dans l'autre partie, habite Christ. Ça, c'est le débat qui est en nous. Je vous invite à lire Romains, les chapitres 6 et 7. Un homme de Dieu américain, Chip Brogden, a écrit ceci. Pourquoi manquez-vous de puissance? Pourquoi êtes-vous incapable de marcher dans la victoire continuelle? Pourquoi ne voyez-vous pas plus de fruits? Parce que la puissance, la victoire et la fertilité ne sont disponibles que pour une personne qui se tient sur le terrain de la résurrection. Dieu ne donne pas ces choses à ceux qui vivent encore pour eux-mêmes. La vie de résurrection est pour ceux qui sont déjà morts. Comment serait-il autrement? À moins qu'un homme ne passe par la mort, il ne peut rien savoir de la résurrection. Si une personne n'est pas prête à prendre la croix, alors elle ne mourra pas. Et si elle ne meurt pas, alors elle ne peut pas ressusciter. Et si elle n'est pas ressuscitée, alors elle ne peut pas s'élever avec Christ et être assise avec lui dans les cieux. Car la chair et le sang ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Voilà ce qu'il a dit cet homme de Dieu, Chip Brogden. Une des expressions favorites des chrétiens est le passage de Philippiens 4, 13 que vous connaissez certainement. Je peux tout faire par Christ qui me glorifie. Et nous aimons sortir ce verset. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Je peux tout faire par Christ qui me glorifie. Mais ce même apôtre a écrit, a dit aussi, je suis crucifié avec Christ. Galates 2, 20. Il a écrit aussi, je peux faire toutes choses à travers Christ qui me fortifie, mais cette force est rendue parfaite dans ma faiblesse. C'est le même qui a écrit, l'apôtre Paul. Rappelons-nous aussi que le Seigneur a dit, dans Jean chapitre 5, verset 5, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Les amis, chers frères et sœurs, cela peut être difficile d'y entrer. Mais ce n'est pas impossible. C'est impossible pour les hommes, c'est vrai. Mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. Plus vite nous acceptons l'impossibilité pour l'homme, plus vite nous acceptons la possibilité pour Dieu. Dieu commence son œuvre quand la nôtre s'arrête. L'apôtre Paul nous donne la clé. Dans Galates 2:20, il écrit « J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis de la chair, Christ vit en moi. La solution de Dieu à nos problèmes est de nous clouer à la croix avec Jésus. Si nous acceptons cette sentence de mort, tous nos problèmes mourront avec nous. Les problèmes ne mourront pas avant que nous ne soyons morts nous-mêmes. Mais le jour où nous cesserons de nous efforcer et que nous acceptons humblement la croix, nous verrons que tout est prêt. Le Seigneur, il dit, je me tiens à la porte, je toque, j'attends juste que vous ouvrez, je rentre. Mais c'est vous qui décidez d'ouvrir. C'est nous qui décidons d'ouvrir. Ne pouvons protester de notre innocence. Mais il nous appelle à mourir lentement comme les deux brigands qui étaient cloués avec lui à côté. La première chose à faire est d'arrêter de faire. Mais c'est difficile. Dire à l'être humain, arrête de faire, mais non. On ne veut pas s'asseoir. On nous dit que nous sommes créés le sixième jour pour le repos du septième jour. Non, je veux faire. Apprenons à dire des paroles comme « Aujourd'hui, Seigneur, j'abandonne. Je suis fini. Je me soumets. Je sais maintenant que dans ma chair, il n'y a rien de bon. En dehors de toi, je ne suis rien. Et indépendamment de toi, je ne peux rien faire. Je ne sais même pas comment prier, Seigneur. » Nous lui disons. J'arrive même pas à te prier, Seigneur. Et je ne sais même pas comment te prier. Je l'avoue devant toi, Seigneur. J'accepte la sentence de mort et je me confie en toi pour me ressusciter d'entre les morts. Que tu puisses grandir en moi en même temps que je diminue. J'ai appris que je ne peux pas, donc je ne ferai pas. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu es la résurrection et la vie. Et je m'attends à toi pour me ressusciter des morts. Je ne me ressusciterai pas moi-même. Que ta force soit rendue parfaite dans ma faiblesse. Que ce soit notre prière, l'Église ici au Creusot, et à titre individuel. Jésus n'a pas dit dans la parole, je suis la crucifixion et la mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la résurrection et la vie. Voilà ce qu'il a dit le Seigneur. Il n'a pas dit, je suis la crucifixion et la mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 25. Méditons bien sur la différence entre les deux. Nous ne sommes pas appelés à la mort, nous sommes appelés à la vie. La résurrection et la vie sont de l'autre côté de la croix. Mais il faut passer par la croix. Et on ne peut pas sauter par-delà la croix. C'est une illusion. C'est l'autre côté de la croix que Jésus nous demande de prendre. La croix est la porte de la vie qui nous mène dans le pays promis de la résurrection. Embrassons ensemble, mes frères et sœurs, la croix, car c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Amen. Amen.